Alors bon, comme vous l'avez rappelé, je suis pas musicologue, ni même spécialement compétent sur la musique japonaise. Simplement, j'écoute beaucoup de musique depuis toujours et je m'intéresse aux questions esthétiques que la musique peut poser, questions esthétiques en général, on va dire. Alors, je me souviens qu'il y a quelques années, quand Okora avait publié un certain nombre de disques sur la Nan Kwan, cette musique merveilleuse et très étrange chinoise de la Chine du Sud, je m'étais vraiment demandé, mais pourquoi je trouve ça aussi bien? Et c'est une question qui m'avait beaucoup troublé. Je me suis dit, voilà, je comprends rien. Ce sont des techniques de chant extrêmement différentes, finalement, de celles que je connais. Et pourtant, j'adore ça. Et puis, je m'étais dit, mais après tout, Monteverdi, que j'aime beaucoup aussi, n'est pas si proche. Et évidemment, j'aime aussi les derniers Lieder de Strauss, Concerto à la mémoire d'un ange de Berg, ou même certaines chansons de Leonard Cohen. Est-ce que finalement, on peut tout entendre indifféremment? C'est vraiment une question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut concevoir une oreille globale? La question donc peut être posée, mais que pourrait être cette oreille globale? Une oreille, peut-être à l'époque de la mondialisation, une oreille qui pourrait tout entendre, une oreille qui ne serait déconcertée par rien, ou potentiellement déconcertée par rien, pour laquelle l'inouï, l'inattendu, s'inscrirait désormais dans un champ déterminé. Ceux qui voyagent le savent, la musique qu'on entend partout, je ne parle pas de la bonne musique, et ce qu'il y a de moins varié malgré la diversité. On entend ainsi des tubes planétaires dans beaucoup d'endroits du monde. Et on peut dire que l'oreille moderne s'est habituée à une sorte de musique internationale, qu'on désigne parfois sous le terme de fusion ou sous le terme assez imprécis de musique du monde. La plupart du temps, il ne s'agit en rien de musique réellement du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des enregistrements ethnologiques, mais plutôt une sorte de production industrielle qui en réalité n'est de nulle part. Il y a une dizaine d'années, aux Victoires de la musique, un grand événement, comme chacun sait, un groupe nommé Era avait reçu un prix aux Victoires de la musique dans cette catégorie musique du monde. Comment comprendre qu'un groupe mêlant électronique bas de gamme et quelques échos samplérisés de vagues mélopées New Age, surtout easy listening, comme on dit, eh bien, ait pu se trouver dans cette catégorie? J'avoue que ce classement m'avait beaucoup interrogé. Même pour une manifestation populaire, j'avais trouvé ça très étrange. Mais après tout, peut-être cette globalité n'est-elle que celle du plus petit dénominateur commun, une sorte de sonorisation générale qui peut convenir à n'importe quel documentaire touristique. Je ne sais pas si vous écoutez quelquefois des documentaires touristiques, mais c'est très amusant, la musique qu'on met en illustration. La même bande-son conviendra ainsi parfaitement à un documentaire sur la reconstitution en 3D de l'abbaye de Cluny. Mais on pourra également utiliser la même pour une présentation de paysages du Yémen et peut-être encore celle des steppes de la Mongolie. C'est une sorte d'exotisme général. Ça me rappelle une anecdote au magasin IKEA, vous m'excuserez de le mentionner, je ne fais pas de publicité, il y a une vingtaine d'années, une cliente s'était approchée du barman suédois. Il y avait du jus d'érelle. Et elle lui avait demandé, est-ce que c'est du jus de fruits exotique? Le barman avait réfléchi un peu et lui avait dit oui, c'est exotique. Et je crois qu'elle en avait demandé. La question que je voudrais poser est de savoir s'il existe une manière de faire de la musique qui puisse recueillir toutes les autres, comme on dirait d'un récit qu'il pourrait recueillir les autres. On sait que la musique classique occidentale peut être française ou russe, mais on sait aussi qu'elle peut être japonaise, chinoise, coréenne. On sait que certaines expériences du jazz ont intégré, avec plus ou moins de bonheur, des éléments de musique arabe ou indienne. Pourquoi d'autres traditions musicales ne peuvent-elles le faire tout en demeurant ce qu'elles sont? Il peut exister une musique occidentale chinoise ou japonaise, je pense à Tandan ou Takemitsu, mais l'inverse est-il possible? C'est vrai que peut-être la question à expliciter serait finalement de savoir ce qu'est cette musique occidentale. Tout à l'heure, vous avez opposé, j'ai beaucoup aimé, la différence de l'origine et la différence de la formation. Alors, pour la musique occidentale, le goût de l'exotisme n'est pas nouveau. L'Europe baroque fait circuler des pratiques musicales un peu différentes. Et quand on écoute par exemple l'Europe galante de Campra, eh bien, on voit ces différences stylistiques qui sont liées à des nationalités. À la toute fin du XVIIIe, et au début du XIXe, on a eu le goût des turqueries. Pourtant, les deux phénomènes sont assez différents. La confrontation de styles nationaux différents, comme le style italien et le style français, ça a certainement constitué la grande affaire de la musique européenne de la fin du XVIIe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On oppose alors deux styles bien différenciés, deux manières de jouer, deux esprits qui constituent les deux pôles de référence principaux des musiciens européens. Les Italiens jouent des sonates, des concertos, des opéras seria. Les Français privilégient des suites de danse et inventent un autre genre d'opéra. Le débat a duré très longtemps. Et ces deux manières d'envisager la musique ont structuré la réflexion musicale pendant une grande partie du XVIIIe siècle, jusqu'au débat bien connu entre Rousseau et Rameau. La mélodie italienne est opposée à l'harmonie française. En réalité, ce qu'on a pu voir, c'est que la situation était bien plus complexe, parce que les deux styles se sont influencés assez largement. Vivaldi a composé pour la cour de France certaines pièces qui sonnent un peu différentes de ce qu'il a composé pour l'Italie, et bien des musiciens français de l'époque, comme Leclerc, ont composé des concertos dans un style, lui, très influencé par l'Italie. François Couperin propose les goûts réunis. Ce n'était pas rare, à cette époque, que l'itinéraire d'un musicien accompli l'amène à parcourir l'Europe pour maîtriser ces styles si différents. Un Savoyard comme Muffat sera composé à la manière de Lully, il sera composé de la même manière que le fait Corelli, ayant appris en France et en Italie les deux styles. Donc l'échange culturel généralisé fait voyager les styles. Ainsi, Bach compose-t-il des suites françaises et des concertos inspirés par le style italien, jusqu'à une certaine fusion qui lui est propre. On trouve chez Telemann des opéras qui parlent tous les styles et chantent dans toutes les langues. Le récitatif est en allemand, l'air en italien, le chœur en français. C'est vrai que quand on regarde l'instrumentarium, on trouve encore des spécificités, et aussi des manières de jouer un petit peu différentes. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'avec l'avènement du classicisme, on peut jouer sans doute à Haendel, à Vienne, à Paris ou à Londres un peu différemment. Il demeure un certain coup d'archet spécifique aux orchestres parisiens, peut-être une manière plus intense à Mannheim, mais globalement, l'Europe s'achemine vers un même langage musical. Sinon, le même langage, tout court, c'est-à-dire... pour ce qui est de chanter, c'est l'italien d'ailleurs, mais le même langage, on va dire, de Vienne à Londres, en passant par Milan ou Venise. On aboutit ainsi à une sorte de rapprochement qui a fusionné à l'époque toutes les musiques européennes dans un langage commun, même s'il demeure indéniablement des pratiques musicales un peu différentes, en raison de pratiques différentes. On sait par exemple que le quatuor... à Paris, était plutôt joué comme une sorte de mini-concerto, un instrument contre les autres, alors qu'on le voit à Vienne évoluer différemment. Alors, on assiste donc à une sorte de fusion, ou du moins de rassemblement de ces langages différents, et ce qui est intéressant, c'est que les différences nationales vont devoir s'exprimer d'une autre manière. C'est-à-dire que la spécificité qui fait qu'une musique est française ou allemande va se faire désormais au sens plutôt d'un choix esthétique à l'intérieur d'un même langage. Ainsi, le préclassicisme de Scarlatti fait-il entendre la guitare espagnole et son côté percussif, mais à l'intérieur d'une forme déjà pratiquement classique. Cette spécificité nationale doit être traduite dans le langage de tous. J'évoquais tout à l'heure les turqueries, très à la mode, de l'enlèvement au sérail de Mozart à l'Abou Hassan de Weber, en passant par la caravane du Caire de Grétry. Évidemment, ce sont des œuvres différentes, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de musique turque, mais plutôt de l'évocation d'un même pittoresque, percussif, percussion et clochette, qui évoque sans doute la musique des janissaires, dans ce langage unifié que j'évoquais. Alors, l'exemple de Weber est intéressant parce que il est le même à avoir composé une turquerie, Abou Hassan, et puis celui aussi à qui on attribue le premier opéra allemand, le Freischütz. C'est évidemment tout à fait faux. Il y eut bien des opéras allemands avant Weber, on pourrait mentionner ceux de Spohr par exemple, mais avec Weber commence un nouveau paradigme esthétique. Les musiques nationales sont censées exprimer l'esprit d'une nation. On y entendra chez Weber la forêt, les légendes allemandes et la vie villageoise. Alors, pour comprendre ça, c'est vrai qu'il y a un texte qui est très bien, c'est le texte de Norbert Elias, La civilisation des mœurs, où il explique la différence entre les deux concepts contemporains de civilisation et de culture. Il explique qu'en Europe, finalement, il y a deux nations qui ont véritablement défendu l'idée d'une civilisation commune, c'est la France et l'Angleterre, la civilisation étant une notion quantitative. Le sauvage n'est pas civilisé, mais l'homme civilisé, c'est cet honnête homme international qui parle français ou anglais, quelle que soit d'ailleurs la cour d'Europe où il se trouve. Et à la même époque, en Allemagne, on voit émerger le concept de Kultur qui, au lieu de définir un processus civilisationnel d'intégration, se réfère beaucoup plus à une sorte d'appartenance. Il est vrai que ce débat a largement, influencé les arts et notamment le domaine musical. Les écoles nationales émergent au début du XIXe siècle, mais en fait c'est le paradigme qui a changé. Le langage commun, la même civilisation, est censé pouvoir traduire aussi une Kultur, c'est-à-dire une appartenance qui se définit comme une expérience esthétique particulière liée à un peuple. Les musiques nationales qui émergent au XIXe siècle sont censées traduire cette expérience spécifique. Le mouvement est lancé, on écoutera chez Dvorak, l'âme tchèque, chez Sibelius, on cherchera à reconnaître les étendues de terre et d'eau des paysages finlandais. Les différences ne sont plus du même type que celles qu'on pouvait trouver à l'époque classique ou à l'époque baroque. Elles deviennent désormais, donc, comme je le disais, des différences véritablement esthétiques, faudrait dire esthético-politiques. Car l'opposition qui sépare par exemple la musique française de la musique allemande à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle est très significative. On sait que Debussy signe Claude Debussy, musicien français. Cela ne signifie pas qu'il n'ait pas subi l'influence de Wagner, ni qu'il n'en ait éprouvé les sortilèges, comme d'ailleurs la plupart des musiciens européens contemporains. Mais l'enjeu est désormais de revendiquer une esthétique nationale, laquelle devient même nationaliste au début du XXe siècle, quand les conflits entre les deux pays s'exacerbent. Dans Le Coq et l'Arlequin, Cocteau défend une esthétique absolument française, faite de clarté et de concision, là où la musique allemande paraît sombre et confuse. Il reproche également à Debussy l'influence wagnérienne et un usage supposé abusif de la fameuse pédale russe. On peut lire, chez Paul Landormy, encore à cette époque ou un peu après, les échos de ce débat entre polytonalité et atonalité, qui ne sont en réalité que l'opposition de deux choix esthétiques relevant de deux esthétiques nationales différentes. Dans cette situation, on peut se demander ce que sera la musique finlandaise, américaine, estonienne, lituanienne, et puis, évidemment, japonaise, chinoise. Ces musiques sauront-elles traduire l'esprit de leur temps, et surtout celui du lieu et du peuple qui l'habite ? Faudra-t-il que Mahler soit viennois, Richard Strauss alpestre, Sibelius finlandais, mais que l'on demande à la musique américaine de s'émanciper des canons européens et que la musique japonaise nous fasse voir un jardin zen. La question peut se formuler ainsi. Comment faire entrer dans ce langage commun et partagé la civilisation, la fameuse civilisation du XVIIIe, ce qui devient ici une formation? C'est-à-dire la formation, l'inscription dans un certain champ musical, un certain type d'orchestre, un certain type d'éducation. Et puis la spécificité, Kultur, des racines culturelles. C'est pour ça que je trouvais que la remarque tout à l'heure sur la manière dont il fallait pousser le cri me paraissait tout à fait intéressante. Comment faire un cri japonais dans une musique occidentale composée par un musicien japonais? Pourtant, d'une certaine façon, ces revendications spécifiques d'un style national censé évoquer l'esprit d'un peuple est réalisé dans un langage, comme on l'a dit, beaucoup plus unifié qu'il ne l'était au XVIIe et XVIIIe siècle. On se retrouve donc devant un paradoxe. Alors on connaît un petit peu le principe des écoles nationales. Il repose sur un ancrage, un lien avec un folklore réel ou imaginaire, comme chez Bartok. On peut ainsi colorer, par des mélodies et des éléments plus ou moins authentiques, un fond communément partagé. Mais ce recours au pittoresque peut s'appliquer beaucoup plus largement, et après tout, rien n'empêche un musicien français d'évoquer un climat indien ou chinois, comme le fait de Lib dans l'Acmé, autrement dit, pour colorer une musique et lui donner un caractère particulier, il suffira de présenter certains éléments musicaux un peu pittoresques. Une musique chinoise présentera quelques gammes pentatoniques, une musique indienne, orientale ou arabe présentera quelques mélodies sinueuses plus ou moins modales. On procédera ainsi par imitation, en important dans un système harmonique occidental des éléments étrangers qui figureront parfois un petit peu comme couleur locale, mais à aucun moment l'importation de ces éléments ne transforme en profondeur le système musical qui procède à ces emprunts. Cette approche culmine au début du XXe siècle dans l'esprit de l'exposition coloniale, avec par exemple les poèmes hindous de Maurice Delage, le Padmavati d'Albert Roussel, la Turandot de Puccini. On pourrait opposer d'ailleurs, presque comme le contraire, ce qu'ont fait les répétitifs américains, qui ont fait exactement l'inverse, puisqu'ils ont cherché à composer une musique occidentale en s'inspirant de la temporalité et, on va dire, d'un autre rapport à l'écoute, qui était celui de la musique indienne, notamment la très grande longueur des œuvres. On assiste ainsi à l'élaboration de musique nationale en dehors de la zone strictement occidentale. Je pense à ce pauvre Prokofiev qu'on avait envoyé dans le Caucase pour composer pour chaque petite nationalité des différentes républiques une musique qui corresponde à leur esprit populaire. La question des compositeurs extra-européens est évidemment beaucoup plus intéressante. La musique indienne semble avoir résisté d'une certaine façon en intégrant des éléments de l'Occident à l'intérieur de sa tradition. Le violon européen, par exemple, paré de cordes sympathiques, est devenu un véritable instrument de la musique carnatique. L'évolution des musiques savantes occidentales en dehors de l'Occident est intéressante parce que ce qu'on observe, c'est qu'on coexistait avec les musiques savantes locales, et certaines sont vraiment très savantes, on a évoqué tout à l'heure le no et le gagaku, des musiques occidentales sans que véritablement elles aient réussi à fusionner. Et on retrouve souvent, comme en Europe, le recours à des éléments caractéristiques sans que le langage soit identique. D'une certaine façon, la rencontre culturelle s'est réalisée sur le mode des musiques nationales européennes qui ont émergé à partir donc du XIXe siècle. Alors, le système tonal, puis dodécaphonique, ou même microtonal, devient ainsi le recueil de tous les possibles musicaux dans la mesure où il contient le champ entier de la composition musicale, en constituant ce langage commun au sein duquel se tiendra l'inouï. L'expérimentation la plus audacieuse entrera dans le même paradigme. Juste une petite remarque, un musicien comme Haba, qui avait suivi Schoenberg, avait essayé de développer un système microtonal, et pour des raisons assez intéressantes, il jugeait finalement qu'il n'était pas possible avec la tonalité de véritablement traduire les musiques populaires qui usaient énormément d'intervalles plus petits. Alors, l'éclatement même des langages musicaux, qui correspond évidemment à la musique depuis 1945, les tient quand même dans le même espace. Cage, par exemple, expérimente jusqu'au silence et au bruit, on sait qu'il s'est beaucoup inspiré de la musique japonaise, mais il demeure dans ce qu'on pourrait appeler une problématique du possible compositionnel. Simplement, il préfère le yiking au calcul des probabilités de Xenakis pour faire advenir une suite de sons, mais on se maintient, malgré tout, dans ce qu'on pourrait appeler une esthétique du possible. Une esthétique du possible, c'est-à-dire une esthétique où le champ de la nouveauté apparaît d'une certaine manière comme une variation, je ne donne pas à ce terme un sens musical, mais une variabilité possible avec un orchestre ou un certain nombre d'instruments à partir d'une formation. Kundera, dans les Testaments trahis, propose une passionnante hypothèse esthétique en comparant Stravinsky avec Schoenberg. Sa proposition apporte un éclairage très surprenant, mais aussi très dérangeant quand on le compare à l'interprétation boulésienne de Stravinsky. On sait que le parcours musical de Stravinsky a beaucoup interrogé, surtout quand on le compare à celui de Schoenberg. On sait que Schoenberg est parti du chromatisme élargi de Wagner pour arriver à une méthode de décaphoniste de se inspirer les sériels de l'après-guerre. Il y a une petite anecdote de Schoenberg que vous connaissez certainement. C'est qu'une dame qui lui avait demandé gentiment pourquoi il ne composait plus dans le style de la nuit transfigurée. Et il lui a répondu, réponse très hegélienne, que c'est justement parce qu'il composait de la même manière que sa musique était différente. La musique sérielle de l'après-guerre s'est référée à Schoenberg et à Webern, jetant aux orties les approches plus conservatrices. C'est l'époque où Boulez qualifie Sibelius de plus mauvais musicien du monde. Mais le cas Stravinsky est embarrassant. Stravinsky fait indéniablement partie des novateurs du XXe siècle. Mais son parcours est très étrange. Le novateur du sacre de Petrouchka choisit ensuite explicitement une esthétique néoclassique dans les années 30 pour finir tardivement par se convertir à une sorte de dodécaphonisme dans les dernières années de sa vie. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être reprendre la distinction que fait Eco. Umberto Eco est moderne, ce qui fait table rase du passé et construit un nouveau langage, et postmoderne, ce qui revisite le passé pour le détourner. La critique moderne a jugé très sévèrement Stravinsky et aussi, on pourrait dire, Richard Strauss, considérant que leur mouvement esthétique s'était trouvé comme arrêté en plein vol et qu'après des audaces de jeunesse, ils avaient tous deux cédé aux facilités du conformisme. Le public, sans doute, préférait les derniers leaders de Strauss aux œuvres de Jean Baraquet ou à la deuxième sonate de Boulez, mais on le sait, le public va à la musique facile. Boulez n'a pratiquement pas enregistré les œuvres néoclassiques de Stravinsky, considérant en gros que son apport à la musique s'est arrêté après sa première période. L'interprétation de Kundera est très intéressante. Elle est étrange. C'est vrai qu'elle est troublante. Moi, quand je l'ai lue, elle m'a beaucoup troublé. Voilà ce qu'il dit. Si Stravinsky, sans style propre, avait souhaité composer dans tous les styles, il n'y aurait plus alors de vrai Stravinsky, celui du sacre, l'autre étant un Stravinsky dévoyé, ni de Stravinsky épigone, suivant Schoenberg à la fin de sa vie, on ne sait pas trop pourquoi, mais plutôt une sorte d'encyclopédiste qui, au lieu d'étendre la combinatoire de la gamme tempérée à la gamme chromatique, puis peut-être à des mélodies de timbre, aurait préféré une sorte de combinatoire stylistique, historique, dans laquelle chaque style propre s'inscrirait comme un livre dans une bibliothèque. Stravinsky romprait alors, et d'après Kundera plus radicalement que Schoenberg, avec le post-romantisme pour composer dans une modernité nouvelle dont l'enjeu n'est plus d'affirmer la singularité d'un sujet, mais de se retirer de toute subjectivité. On peut alors composer dans tous les styles, parce que, comme le dit Hegel, l'art est désormais pour nous quelque chose du passé. Cette hypothèse peut sans doute également s'appliquer dans une moindre mesure à Strauss. On pourra, sans trop de remords, si on l'accepte momentanément, se laisser aller à l'émotion, sans doute impure, d'un sublime par trop dégoulinant, lequel côtoie quelques mesures plus loin la réminiscence à rien vulgaire d'un mouvement de valse bourgeoise. Tout ceci doit être entendu au second degré. Comme me disait ma mère quand j'étais petit et que j'avais peur devant un film à suspense, elle me disait « c'est du cinéma ». On pourra dire à quelqu'un qui pleure en écoutant les quatre dernières lignes de Strauss « c'est pas grave, c'est de la musique ». On peut concevoir ainsi une musique faite de collages et d'emprunts, mise en perspective dans un geste compositionnel, lequel fonctionne d'une certaine façon comme un acte différentiel. Alors, évidemment, tout ceci interroge. Beaucoup d'œuvres, finalement, s'inscrivent aussi dans ce champ. On pourrait parler des quatuors de Ben Johnston, par exemple, qui sont tout à fait surprenants, puisque c'est une musique presque néoclassique, mais c'est une sorte de Haydn en quart de ton. Et vraiment, quand on écoute, on se demande un petit peu ce qu'on écoute. On pourrait penser aussi à Schnittke, mais au collage de Reich, après tout, à Chelsea, et peut-être aussi en premier à Busoni. Et même aux transcriptions que Schoenberg a faites, tout à fait intéressantes, sans parler évidemment du Richard Carr de Webern. Alors, le phénomène baroque, et c'est là qu'on va revenir aux Japonais, doit être envisagé dans cette perspective. Une archéologie dont l'objet même est de produire une distance temporelle, puisque tout retour est une rupture, on le sait, certains orchestres des années 20 étaient probablement plus proches de la tradition mozartienne que ne le seront jamais les orchestres baroques. Mais l'enjeu n'est pas là. Les interprétations à l'ancienne sont en réalité nouvelles, selon un processus qu'a bien connu la Renaissance. Car le retour est toujours reconstruction d'un passé perdu, dans lequel on n'est plus, et par conséquent, marquage d'un passé moyen. On fabrique le Moyen-Âge à la Renaissance en même temps. L'interprétation moderne, des ensembles modernes, apparaît aujourd'hui comme non philologique. Mais elle est inscrite dans une tradition évolutive historique, alors que les baroqueux, eux, seraient méta-historiques. C'est en quelque sorte la tradition contre l'authenticité, la continuité contre le discontinu, l'immédiat contre la médiation anthropologique. S'il apparaît indéniable que des compositeurs comme Takemitsu et Taira sont à la fois des compositeurs occidentaux et japonais, ce qui n'est en rien contradictoire, il est très difficile d'isoler parfaitement leur japonité du langage musical dans lequel ils se sont installés. L'empreinte japonaise est référentielle. On l'a entendu tout à l'heure, le silence, les percussions, parfois la flûte, qui se réfère donc à la shakuhachi. L'empreinte japonaise est référentielle. L'influence de Bucéen sur Taira ou Takemitsu, qu'on attribue, donc on leur attribue très souvent, fonctionne un peu comme un miroir. Elle répond à la vogue japonisante en France au début du XIXe siècle. On sait aussi que Coréens et Japonais se sont souvent situés dans le domaine de la formation par rapport à la France ou à l'Allemagne, puisque c'est en général dans ces deux pays qu'ils ont fait leurs études, ou aux États-Unis. Je dois avouer que j'ai entendu une fois, alors je n'ai pas retrouvé la référence, mais il y a un rare essai de Takemitsu pour composer pour un ensemble de Gaigaku. Quand j'ai écouté cette œuvre, ça m'a laissé un peu perplexe, et je dois dire, sur ma faim. Comme si, paradoxalement, sa japonité se trouvait mieux présentée dans le langage musical universel de la musique occidentale qu'elle ne l'était par l'ensemble Gaigaku, avec un instrumentarium typiquement japonais. Cette question m'a vraiment troublé, et elle pose un problème de genre. La deuxième question, je reviens à la musique baroque, c'est l'incroyable aptitude des Japonais, et peut-être aussi des Taïwanais, à produire une musique ancienne européenne alors qu'elle ne se trouve pas dans leur tradition. On sait que l'Occident a longtemps considéré les Japonais comme des imitateurs. Dans le cas de la musique ancienne, la distance temporelle se trouve doublée d'une distance culturelle. Les deux distances sont-elles cumulatives ? À l'écoute des enregistrements, des cantates de Bach et autres œuvres par Suzuki, on doit clairement répondre non. Ces cantates figurent parmi les plus belles, on est même tenté de dire parmi les plus philologiques, les plus idiomatiques, à côté du calviniste Léonard et du catholique Arnoncourt. Suzuki compose effectivement, interprète effectivement un Bach tout à fait extraordinaire. Peut-être nous trouvons-nous alors, comme dans le cas du paradoxe du comédien, et contre les propos de Cocteau dans Le Coq et l'Arlequin, dans une situation de représentation. Il n'est pas nécessaire de chanter dans son arbre généalogique. La distance archéologique, au contraire, est en mesure de restituer l'archive, de la faire vivre d'une vie nouvelle. Comme pour le paradoxe du comédien, la représentation n'engage pas le sujet autrement que dans son acte de production d'une représentation. Suzuki se revendique chrétien, je crois, mais ces chanteurs le sont-ils ? Et ces musiciens ? La production de l'émotion musicale n'est-elle pas au rendez-vous ? La survivance moderne des instruments classiques ou traditionnels ne répond pas seulement à des raisons pratiques d'apprentissage des techniques de jeu, elle permet aussi une traductabilité générale des musiques et des interprétations. On peut aussi, après tout, composer de la musique d'aujourd'hui pour des instruments qui n'ont plus cours. Mauricio Kagel l'a fait, mais c'est une pratique qu'on a entendue depuis quelques années, notamment pour la viole de gambe. À condition de pouvoir s'inscrire dans un langage traductible qui permette le transfert des récits. La double japonité des œuvres de Takemitsu quand il compose pour ensemble Gaigaku, finalement, ne s'additionne pas. Il n'est pas certain que le Gaigaku puisse accueillir, dans sa tradition, cette possibilité de convertibilité. L'oreille globale peut tout entendre, mais il lui faut au fond un format qui puisse recueillir le sonore. La création se trouvant sans cesse écartelée entre la tentation de faire éclater le format, mais aussi de s'y inscrire. Il y a eu des tentatives tout à fait avortées. Je pense aux opéras minutes de Millau, qui ne sont pas inintéressants, mais que finalement, on ne peut pas jouer. Parce que réunir un énorme orchestre et des chanteurs pour jouer une œuvre aussi courte est difficile. Même chose pour les opéras seria du XVIIIe siècle, qu'on ne peut pas jouer pratiquement dans les conditions où ils l'étaient. Ou quelques originaux, comme Harry Partch, qui ont constitué leur propre instrumentarium, ou comme Conan Caro, qui ont composé exclusivement pour le piano mécanique, il en ressort que la tradition n'est pas la répétition du même. Comme pour un standard de jazz, elle se trouve sans cesse renouvelée, trahie même, et c'est peut-être par cette trahison qu'elle vit. C'est pour ça qu'on l'appelle la tradition. Les musiciens florentins de la Camerata Bardi croyaient retrouver la tradition chantée de la tragédie antique. Ils ont inventé l'opéra. À mesure qu'on s'éloigne du modèle original, peut-être en retrouve-t-on le cœur. Je reviens toujours à la question du cri de tout à l'heure. Les retours sont toujours des impostures, mais parfois fécondes. Les maintiens se font de manière invisible, comme le disait Schoenberg. J'ai trouvé très intéressant ces dernières années de voir des musiciens composer des œuvres un peu décalées. Je pense par exemple à une instrumentation, à une orchestration que Michael Jarrell, il n'est pas américain, a fait de Debussy, qui n'était pas simplement un travail d'instrumentation, et aussi au travail que Thomas Hades a fait sur des œuvres de Couperin, tout à fait intéressant et étrange. Il reste donc une sorte de récapitulation à faire. Je voudrais terminer juste sur un tout petit exemple. Vous savez qu'on écoute tous de la musique sur iTunes. C'est, enfin, peut-être pas iTunes, mais quelque chose du même genre. Le disque dur parcourt l'ensemble des informations qui s'y trouvent. Alors, en fait, on ne sait pas du tout comment il les lit, comment il les range. On entend son petit grésillement discret, surtout quand il commence à être un peu usé. Là, on se dit qu'il faudrait peut-être le changer. Mais tandis que iTunes lit cette interprétation furieuse, pas des quatre saisons, par exemple, joué par le Concerto Italiano, on se demande si plutôt que d'avoir écrit Molto Vivace, Vivaldi n'a pas écrit à la punk. Effectivement, l'interprétation de Vivaldi par le Concerto Armonico est pratiquement une interprétation, je dirais, en phase, finalement, avec ce que jouent les joueurs de rock de l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près une quinzaine d'années, où encore on entendait dans la musique de rock une sorte de rage. Il me semble que la question donc, que j'ai essayé de poser, et certainement que je ne suis pas parvenu à résoudre, c'est de savoir comment on pouvait donc envisager finalement un fond qui puisse reconnaître la totalité, qui puisse recevoir la totalité des approches de composition, sans forcément conserver, si vous voulez, la spécificité particulière de chaque peuple ou de chaque époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une direction esthétique qui peut nous paraître un petit peu surprenante, où finalement, comme le dit Kundera à propos de Stravinsky, tout peut être composé avec des changements stylistiques très importants chez quand même des musiciens contemporains qui nous ont parfois beaucoup surpris, avec cette idée finalement d'une modernité qui serait à la fois une modernité tiraillée entre, on va dire, une tradition de formation occidentale et puis peut-être des spécificités, mais qui serait aussi une modernité décalée dans la mesure où se présenterait un enjeu, je dirais, qui est celui du rapport à l'archive. Et du coup, on peut aussi se demander si Suzuki, quand il interprète les cantates de Bach n'est pas aussi, d'une certaine façon, dans une démarche résolument moderne. Et c'est vrai que j'avais été très étonné par le fait que la vogue des baroqueux avait très souvent été lancée par des personnes qui, dans les années 60, jouaient de la musique contemporaine. C'était une remarque que William Christie avait fait, qu'il avait commencé par la musique contemporaine et qu'il était passé ensuite à la musique baroque. Et je crois que c'est une question qui est véritablement une question troublante. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu par les arguments de Milan Kundera, mais je dois avouer qu'il m'interroge énormément. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.